On part sur le front, mais avant de commencer, petit tour de table au studio 621 avec vous, Patricia Alémonière. Vous êtes grand reporter, première femme de télévision à être nommée correspondante à l'étranger. C'est bon.
En télévision.
En télévision, c'est cela. Liseron Boudoul, vous êtes grand reporter et lauréate du prix Grand Reporter 2018.
C'est moi, Liseron.
Ah mais oui, c'est de
l'autre côté. Commence bien.
Ça commence fort. Anne Barrier, vous êtes JRI, journaliste reporter d'image depuis 2005. Je ne lève même plus la tête. C'est bon?
Ça, je suis présente.
Et Véronique de Vigry, vous êtes photoreporter récompensée par un Visa d'or 2018 au Festival international de photojournalisme de Perpignan. Visa pour l'image. C'est J'ai bon. Bien raison. Générique.
Moi, je risque ma vie pour la vivre. Ici, je la vis pas.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre Énervé la suite. Ce soir, nos invités sont des femmes d'image et de terrain, des journalistes reporters sur tous les fronts pour relater, raconter et montrer ce qu'est la guerre. Dans un livre qui vient de paraître, 5 journalistes, 5 reporters de guerre témoignent pour dire ce à quoi ressemble leur métier et expliquer pour quelles raisons elles repartent risquer leur vie au nom de l'information. Ces 5 femmes travaillent actuellement pour TF1 et leurs reportages permettent de mieux saisir la situation au Liban, en Afghanistan, en Libye, au Yémen ou encore en Syrie. On a souhaité les entendre et invité à leur côté une photoreporter, lauréate du Visa d'Or News en 2018, première femme à avoir remporté ce prix pour son travail au Yémen. Au moment où les médias, les journalistes se voient remis en question, on a eu envie avec Benoît Lagan, qui lui n'est jamais sorti du studio 621, de donner la parole à ces journalistes qui risquent leur vie pour nous informer. Femmes reporters de guerre, et c'est quoi le problème? Le Énervé la suite, ça commence.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Non, Benoît Lagan, vous n'êtes jamais sorti de ce studio.
Si, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, vous avez raison et à la fois tort. Oui, c'est vrai que depuis très longtemps, je ne suis pas sorti de ce bureau.
Vous êtes à mes côtés, je vous surveille.
Ben oui, mais il y a bien longtemps, j'ai travaillé avec Jean Lebrun à France Culture. On partait faire des reportages. Et certes, j'allais pas en terrain très très compliqué, au Québec, pour couvrir des élections provinciales. Mais quand même en Côte d'Ivoire, après le putsch de 99, là, c'était un peu plus compliqué. Mais moi, ça m'attirait pas vraiment. Et ce que j'avais surtout remarqué, c'était que dans l'équipe, ceux qui partaient, c'était Alain Lefkovitch, Raphaël Kraft, des hommes qui avaient pas froid aux yeux. Et ça, ça a été une première surprise en réalité. Parce que pour moi, l'image du grand reporter de guerre, c'était plutôt l'image d'une femme. Et c'était notamment l'image de Martine Laroche-Joubert. Et surtout elle, parce qu'en fait, à la télévision, dans mon enfance, on regardait surtout le journal télévisé d'Antenne 2 et de France 2. Et donc, Martine Laroche-Joubert, pour moi, c'était la grand reporter de guerre. Donc, c'était une femme. Juliette Médevielle a fouillé les archives et elle a retrouvé la voix de Martine Laroche-Joubert. On est le 2 novembre 1996 et c'est lors du JT de Bruno Mazur.
Retour au drame que traverse actuellement le Zaïre. Comme promis, nous retrouvons en direct de Kigali notre envoyé spécial, le Martine Laroche-Joubert. Martine, bonsoir. Vous avez quitté Goma ce matin parce que tout simplement vous ne pouviez plus travailler.
Nous, en effet, nous étions bloqués dans un hôtel entre les deux lignes de front. Alors, d'une part, celle des assaillants venus du Rwanda et d'autre part, celle des forces aériennes. Donc, nous avons été soumis pendant 24 heures à peu près à des tirs d'artillerie lourde pendant qu'on entendait des rafales d'armes automatiques dans la ville. Mais il est très difficile pour le moment de dire si les forces rwandaises occupent ou pas une partie de Goma. Il est possible qu'elles occupent certains quartiers. Il est possible aussi qu'elles se retirent.
Martine Laroche-Joubert a continué son travail. On la voit encore. Moi, je trouve que c'est l'image comme ça, à la télévision finalement, les femmes sont sur le terrain de la guerre. Or, quand je vous ai lu dans un entretien, Véronique de Viguerie, quand on vous parle du journalisme de guerre, vous dites que les femmes ont eu l'impression qu'on notait la virilité aux collègues hommes quand on allait en zone de guerre. Vous avez même dit ça ne sert à rien d'avoir un pénis sur les zones de conflit, enfin si juste pour pisser c'est plus pratique. Vous l'aviez dit au Monde, vous confirmez?
Je confirme.
Bah oui, de toute façon c'était lu.
Patricia Alémonière, vous qui êtes la plus ancienne de toute l'équipe ce soir, ça a été vraiment dur de s'imposer, alors que quand on le regarde après coup, on a l'impression que dans les années 80, c'est les femmes justement qui ont montré la guerre beaucoup à la télévision.
Non, ça n'a pas été dur. Ce qui est drôle, c'est que vous avez ressorti ce reportage de Martine où j'étais avec elle coincée entre les deux lignes de front. Effectivement, pendant 24 heures, on a vécu toutes les deux à ce moment-là. Ça n'a pas été... Moi, je ne l'ai pas vécu comme difficile. On a eu des petites anecdotes, des petites phrases. Tiens, voilà des femmes maintenant dans le service étranger, comme si on tombait de la lune. Mais c'est pas difficile. Je pense que quand on ne joue pas sur sa féminité, quand on est comme on est, toute simple, dans ces cas-là, la féminité ce qui pourrait être un handicap, parfois, s'efface. Alors bien sûr, il y a des situations où il faut faire attention, des situations de manifestation, des situations d'extrême violence, où il y a une foule, une masse. Et dans ces cas-là, bon, eh bien, c'est vrai que j'avais tendance plutôt sur le terrain à mettre, à demander au preneur de son d'être derrière ou au monteur et au caméraman d'être devant pour ne pas être touché, tout simplement. Mais ça, c'est dans... J'ai envie de dire, il faut savoir se débrouiller en quelque sorte. Hein. C'est comme si on conduit une voiture. Eh bien, quand on est une femme sur le terrain, il y a des règles, mais on les passe très facilement. Et franchement, dans mon métier, je n'ai jamais été handicapée par ça, même parfois avantagée.
Mais au sein des rédactions, ça a été quand même pas compliqué. Vous dites dans le livre que vous avez entendu au moment des voix féminines pour commenter la guerre. Ça va déstabiliser nos téléspectateurs.
Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui le pensaient très sincèrement, qu'une voix... plus douce ou plus aiguë, elle ne collait pas avec le rythme des guerres. Mais c'était des épiphénomènes. Mmh. Ce qui nous a permis de gagner, je crois, notre place, c'est notre extrême disponibilité. Parce que nous étions disponibles. L'été, on partait pas en vacances avec nos enfants. On était toujours là. Et si on avait cette extrême disponibilité, c'est peut-être parce qu'on a ce tempérament, mais c'est peut-être aussi parce qu'on voulait démontrer qu'on pouvait aussi.
Ils ont voulu,
oui,
vous
en même temps, il fallait montrer patte blanche quand même pour entrer dans le service des grands reporters étrangers. Et moi qui n'en étais pas, j'ai eu beaucoup de mal à m'imposer, à faire mes preuves pour être enfin admise dans ce qui s'appelait le service étranger, qui n'est plus d'ailleurs, qui a explosé, puisque maintenant on est dans un pôle news où on refait un peu tout. C'est une autre stratégie qui a aussi son intérêt. Mais moi, je me souviens de début où j'ai dû me battre quand même hein, pour passer de ma banlieue où je faisais tous mes reportages étaient quasiment en banlieue autour de la période 2005, le moment des révoltes. Alors peut-être que ça m'a aussi formé au contexte de crise un peu dure où l'agressivité et la violence sont là et qu'il faut bien faire face et qu'il faut faire son reportage aussi. Et petit à petit, j'ai eu envie de passer de cet autre monde, parce qu'au-delà du périph', c'est un autre monde quand même, au vrai monde plus lointain. Et j'avais fait mes armes en banlieue. Ça m'a peut-être ouvert cette petite porte un peu plus vite, mais après il a fallu que je continue à faire mes preuves sur les premiers terrains de guerre. Bon. Et le printemps arabe arrivant, ouais. Ça m'a donné une sacrée opportunité. Je dis que je suis un peu née avec le printemps arabe en fait.
Véronique de Vicry, vous êtes née avec quoi ?
Moi c'était plutôt en Afghanistan. Ouais, c'est là où j'ai passé mes premières trois années en tant que journaliste, enfin photographe pigiste. Moi je trouve qu'être une femme c'est plutôt un avantage en fait, surtout dans ces pays-là. En fait, on est un peu en troisième sexe. On n'est pas les hommes, on n'est pas les femmes telles qu'ils les connaissent. Et surtout, comme on fait pas peur, on n'est pas un danger pour eux, donc c'est plus facile. Et on a accès aux femmes, quand même la moitié de la population.
C'est vrai qu'ils nous regardent un peu comme un truc bizarre. Hein. Quand on arrive dans certains pays, je me rappelle la Libye, Anne peut en parler. En plus, on était Anne et moi, donc deux femmes.
Anne mariée, ouais.
Et Anne mariée, avec notre monteur qui n'est plus là, Gilles Tuban. Et donc, bon, ça faisait quand même groupe de nanas, quoi. Et puis, il fallait s'imposer, il fallait monter sur le pick-up avec les révolutionnaires. Ils n'avaient jamais vu ça, quoi. En plus, on est plutôt de cheveux clairs, quoi, blondes et châtains clairs. Donc pour eux, on arrive là, on n'avait pas le voile, tout juste si on avait le casque, et encore pas tout le temps, parce qu'on peut pas porter le casque du matin au soir, sinon on peut plus bosser, tout comme le gilet pare-balles. Et il fallait qu'on y aille, puisqu'on était là pour couvrir ce Tripoli qui allait tomber. Mmh. Et donc on s'est imposé, mais on s'est imposé avec notre nature. Enfin Anne, tu me diras ce que t'en penses.
Oui, mais je pense que en fait,
avec nos sourires quelquefois. Donc voilà, ça décompresse
en Libye,
beaucoup aussi.
Le fait d'avoir été, le fait d'être une femme en Libye, ça a été un atout pour nous. Je me souviens d'une fois où une femme s'était échappée d'une geôle et on a commencé à filmer, à écouter son histoire. Les hommes de Kadhafi n'ont pas bien pris du tout. Ils nous ont couru après, on était plusieurs journalistes, beaucoup d'hommes se sont fait attraper par les hommes de Kadhafi et notamment notre collègue Gilles Tuban et se sont fait rouer de coups. Je pense qu'à ce moment-là, les hommes de Kadhafi ont eu une seconde, peut-être deux ou trois maximum, d'hésitation avant de nous taper, ce qui nous a permis de nous échapper et de conserver les images et de les diffuser et de les envoyer à TF1.
Patricia Lemonnière.
Il n'y a pas ce rapport à ce moment-là de pouvoir avec une femme. C'est un autre, comme tu disais, on est un peu des ovnis, on tombe du ciel. Alors, il n'y a pas ce rapport de pouvoir. Donc, moi, j'ai obtenu auprès de chefs de guerre au Tchad des choses, de m'emmener au-delà du 16e parallèle, de participer à des opérations militaires que des garçons aurait eu beaucoup plus de difficultés à avoir. Et j'ai pas joué sur ma féminité. J'étais, parce que j'étais pour eux, c'est presque admirable, entre guillemets, parce que j'étais une femme qui venait vraiment d'ailleurs. Et je pense que, comme tu le disais, ça peut être un atout. Mais il faut faire attention, parce que dans certaines situations, on risque beaucoup plus gros qu'un homme.
Vous pensez quoi ?
Je pense au viol. Dans des situations de grosses manifestations. Il y a des pays où il y a des frustrations sexuelles qui fait que d'un seul coup, ces corps de femmes au milieu d'une masse, eh bien, forcément, ça attire. Donc, il y a un vrai danger pour nous, mais on peut s'en garantir. On peut porter des vêtements très, très amples, etc. Il y a des choses à faire, mais il y reste un petit danger.
Mais moi, j'ai été menacée de viol en République démocratique du Congo.
Les Ramboudoules.
Oui, mais en République démocratique du Congo, c'était les premiers reportages avant que je sois au service étranger que je faisais. Dans cette zone où il y a des groupes de rebelles, de guerriers qu'on ne connaît pas vraiment, et où il y a aussi des mines de coltan qui servent à fabriquer les petites puces pour les téléphones portables. Donc je faisais une enquête là-dessus, ces mines où ce sont les enfants qui creusent, pour nous en fait, pour ce business. Et donc on gênait beaucoup de monde, y compris les trafiquants, en allant enquêter, en allant avec notre caméra, même s'il fallait qu'on tourne très vite. Le soir, à un moment donné, je rentre dans le petit hôtel dans lequel on était hébergé, et là on m'a fait savoir, ne retourne plus sur le terrain demain matin. Il y a une menace de viol sur toi. Voilà, tout simplement. On vous fait juste savoir. Alors après, à vous de décider si vous continuez ou pas, mais vous continuez peut-être pas dans les mêmes conditions.
Véronique de Vigré, vous avez rencontré des situations aussi dramatiques ?
Oui, bon, on fait attention de pas en fait arriver au point où ça peut devenir dangereux. Donc effectivement, avec Manon Kérouille, la journaliste avec laquelle je travaille, on sait qu'il y a des endroits, notamment il y avait dans le delta du Niger, on a fait un reportage sur les membres du MENT, le mouvement d'émancipation du delta du Niger. Et on nous avait prévenu, une fois que vous allez là-bas, en fait, surtout dès qu'ils commencent à boire ou dès qu'ils commencent à fumer, vous allez vous enfermer dans votre case et vous bougez pas. Et c'est ce qu'on a fait. Mais malgré tout, le chef du MEND a eu la bonne idée de tomber amoureux de Manon. Et là, ça a été un peu compliqué. Donc, on a dit qu'avant de faire quoi que ce soit, il fallait se marier. Et que pour se marier, il fallait que on aille acheter une robe et que on prévienne nos parents, qui seraient bien sûr ravis. Et ne doutant de rien, il nous a renvoyés en ville avec un peu d'argent pour qu'on aille acheter la robe. Évidemment, on n'est jamais revenu. Donc, il attend toujours sa fiancée évaporée.
Mais la prochaine qui va venir, par contre, il faudra qu'elle trouve autre chose que la robe.
On a été demandé en mariage quelque part, hein. Dans ces pays-là, voilà. Mais c'est sûr. Mais en même temps, il faut contourner ça et s'en servir.
Véronique. Il faut essayer d'éviter au plus possible des situations qui pourraient craindre quand, effectivement, nos camarades hommes peuvent jouer sur la camaraderie, justement, en buvant des coups et tout ça pour obtenir des choses. Bon, mais nous, ça, on peut pas. Il faut s'arrêter avant et pour forcer un certain respect et garder une distance, en fait.
On va revenir sur cette distance dans quelques instants. On reprend les reportages de guerre.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard. We'll be right back.
Une pure pépite signée The Lightning Seeds en 1990, une programmation très pure de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
Lendemain de massacre à Sarajevo.
Martine Laroche.
Cette fois-ci, le carnage est si sanglant. 66 morts, 200 blessés.
Alors nous rejoignons Marine Jacquemin qui est notre envoyée spéciale au Pakistan.
Ce ne sont que des enfants, mais la vie ne leur a fait aucun cadeau. Avec leurs parents, ils tentent de fuir la guerre qui sévit depuis plus de 2 décennies.
Mais Mona, cela faisait 14 mois que vous n'étiez pas revenue à Bagdad.
Les gens veulent pouvoir circuler. Ils veulent que les attentats s'arrêtent.
Une correspondance de Patricia Alemonière.
Contrôle militaire, soldats tendus, couvre-feu, telle était la situation autour de Gaza cet après-midi.
Et on entendait aussi Memona Interman à l'occasion de la parution d'un livre aux éditions Talendier dans lequel 5 femmes journalistes de guerre témoignent. On a décidé au NRV de donner la parole à 5 reporters de guerre, Patricia Alemonière, Anne Barrier, Lise Romboudoul et Véronique de Viguerie. Marine Jacquemin devait être avec nous, mais elle est souffrante ce soir. J'imagine que toutes vous avez pensé à l'occasion de ce livre et pas seulement à ce qui vous a poussé dans cette voie-là. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous motiver pour aller sur ce terrain, Véronique de Viguerie?
Ben, je crois que quand je regardais ça au journal télévisé, j'avais envie d'en faire partie, j'avais envie de le vivre pleinement et pas juste de regarder ça derrière un écran. Envie de voir l'histoire s'écrire, de la vivre.
Oui, et c'est ça, c'est être dans le moment, dans la force du moment qui se déroule, quoi. Être à l'intérieur de quelque chose de fort, à l'intérieur de quelque chose aussi qu'on a du mal à décrypter au départ. Moi, c'est aussi ça qui me pousse, c'est l'envie de comprendre, l'envie d'aller là où les journalistes ne sont pas forcément les bienvenus et là où les populations ont peut-être aussi besoin qu'on vienne pour témoigner de ce qu'elles vivent.
Anne Barrier ?
Oui, moi j'avais, comme dit Véronique, j'avais envie de vivre l'histoire de l'intérieur. En Libye, quand je voyais ces lignes de front, ces tranchées, ces sacs de sable, ces balles qui rebondissaient, j'avais l'impression... finalement de revoir les photos de mes livres d'histoire quand j'étais collégienne. Sauf que là, en fait, j'étais dedans, j'étais dans l'image, et puis c'était en couleur. Je suis née dans un cocon, et j'avais envie aussi de me confronter à des choses que je ne connaissais pas, à voir jusqu'où je pouvais repousser les limites.
Patricia Lemonnière ?
Moi, je suis arrivée dans ce métier par hasard, mais j'ai tout de suite adhéré à l'étranger, à l'international. Et ce qui me fait sans arrêt revenir, et ce qui m'a fait sans arrêt revenir, c'est la rencontre des autres qui avancent sans masque, avec ces millions de héros anonymes dont on ne parle pas, et c'est eux dont j'ai envie de parler.
Le premier photoreportage, ça a été lequel pour vous, Véronique de Viguerie ?
Moi, c'était en Afghanistan. Hein.
C'était le premier, ouais. C'est vrai.
C'était en Afghanistan, et mon premier, c'était sur les femmes qui fumaient de l'opium pour oublier leur misère.
Patricia Lemonnière, oui, ça vous dit quelque chose,
ouais. Ah oui, oui, l'Afghanistan, ça me dit beaucoup, mais les femmes sous les ponts de Kaboul pour oublier la misère, ou ces enfants sans leur mère qui traînent et on leur demande où elle est maman, ben maman, elle est accrochée sur la montagne dans une espèce de cahute qui tient à peine debout, et quand on y va, parce qu'on peut aller la voir, nous les femmes justement, et qu'on pénètre dans la maison, qu'on ouvre la porte, ce qu'on découvre est terrible, et c'est pour ça qu'on revient, pour témoigner de ça.
Vous toutes, vous avez été au contact des femmes, justement, dans ces pays-là ?
Dans les pays musulmans, vous voulez dire ? Dans les pays musulmans, oui, oui, on est à un moment donné, même si c'est la guerre, donc c'est plutôt un contexte de mecs hein, autour de nous, à un moment donné, on est toujours amené à rencontrer une femme qui est... ou la maman qui nous reçoit, par exemple en Syrie, ce sont les mamans qui nous hébergeaient, qui nous cachaient, en fait, parce que c'est la population qui nous cachait, moi et mon caméraman, Guillaume Aguerre, parce qu'on était là en clandestin et que il fallait rester une semaine pour faire ce reportage et que chaque soir il fallait changer de maison et changer de famille. Et donc il y avait tout un réseau organisé pour nous protéger. Et là, c'était les mamans qui nous accueillaient, qui nous offraient déjà du thé et puis un petit repas, enfin ce qu'il y avait à partager. Et là, on pouvait le soir, je me rappelle de petites conversations avec un petit peu d'arabe que j'ai appris depuis, échanger sur la vie quotidienne et la grande peur qui commençait déjà à naître dans ce pays au tout début de la révolution.
Ici, autour de la table, vous êtes toutes affiliées à la télévision, sauf vous, hein, qui êtes indépendante, Véronique de Viguerie. Oui. Qu'est-ce que ça change justement, même dans la préparation même de ces voyages ?
Ben déjà, on est beaucoup plus précaire puisqu'on est freelance. Donc, quand on travaille pas, il faut chercher le prochain reportage. Et surtout, en fait, comme il y a de moins en moins de moyens, on doit présenter des synopsis pour prévendre nos sujets de plus en plus. sexy ou exceptionnel ou sensationnel, et on doit aller toujours plus loin pour être sûr que on nous fasse travailler. Et comme tous les budgets de production ont aussi diminué, on doit travailler de plus en plus vite, donc préparer beaucoup en amont. Et parfois, ça va un peu à l'encontre de notre boulot, parce qu'en fait, on a presque parfois, on sait déjà presque tout ce qu'on va, les gens qu'on va rencontrer, exactement l'angle qu'on va donner, et presque on pourra en être à cocher les cases, arriver et cocher les cases, parce qu'on n'a plus le temps, on n'a plus les moyens, de partir un peu le nez au vent et de se laisser porter par l'histoire quand on y est.
Vous avez réussi à rendre le Yémen sexy pour pouvoir y partir?
Alors le Yémen, ça a été une grosse bataille qui a duré pendant un an pour avoir tous les visas et les autorisations et pour avoir deux rédactions qui prenaient la responsabilité de nous envoyer là-bas.
Ouais. Comment ça se passe à TF1 justement? C'est à Lémonière ou Isron Boudoul, Barrier?
Maintenant ou avant?
Ça c'est pas mal. Oui. Alors avant et maintenant. Ouais. Comme vous voulez.
Moi je ne peux que parler de ces 7-8 dernières années, puisqu'avant, je n'y étais pas.
Patricia va le confirmer, oui.
Comme tu dis, Véronique, les stratégies changent et les budgets diminuent. Donc, on n'est pas confronté à la même angoisse de vendre un sujet pour vivre. On a un salaire et on fait d'autres reportages à côté, y compris en France. Mais en même temps, il est de plus en plus dur, enfin moi je le ressens comme ça, de partir sur ces types de reportages où on restait 2 semaines, 3 semaines et où on ramenait un petit peu ce qu'on ramenait, quoi, dans notre sac à dos. Et là, je pense qu'il y a aussi une crise en France qui fait que tous les regards sont là sur notre pays. Donc nous-mêmes, on a du mal à proposer, mais à vendre, puisqu'on est aussi dans un système de vente, entre guillemets, à nos rédacteurs en chef, d'aller voir ailleurs ce qui se passe.
Donc c'est une question éditoriale et économique, plus que de questions d'assurance, par exemple.
Ouais, c'est pas...
Patricia Lemonnière.
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a le phénomène, le fait financier. On pense que si on part à l'étranger, on va forcément dépenser beaucoup d'argent, ce qui n'est pas forcément vrai, quand on fait tous les calculs. Il y a le marketing qui nous met dans des nécessités de répondre à des pseudo-besoins des téléspectateurs, des auditeurs. On pense qu'ils préfèrent ne pas être heurtés, choqués, bouleversés par certaines choses. On préfère leur donner des choses plus rassurantes. Une découverte à l'étranger, du dernier mammouth découvert quelque part en Afrique, est beaucoup plus douce et consensuelle que le conflit au Yémen, d'où je suis revenue comme toi en septembre, peut-être. Parce que les images... Moi, je vois dans le traitement des images... Avant, on montrait des images beaucoup plus violentes et fortes. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus édulcoré. Et puis avec la crise, eh bien, c'est comme si les gens avaient besoin de se concentrer sur eux-mêmes et finalement de ne pas regarder à l'extérieur. Et pour moi, c'est tout l'inverse. Il faut regarder à l'extérieur pour ne pas faire du populisme.
Parce qu'en même temps, les gens que l'on rencontre, même à Paris, là, en ce moment, je travaille sur la banlieue à nouveau, et les gens me disent... Nous, on aime ces reportages que vous nous faites à l'étranger. On est intéressés parce qu'on ne ramène pas des reportages qu'on ferait à Paris avec 2-3 images dans une cabine. On ramène des séquences de vie, on raconte une histoire. Et ça, le reportage, où qu'il soit, enfin, je ne sais pas si vous partagez, mesdames, cette opinion-là, mais où qu'il soit, quand on ramène une histoire humaine, ça prend, quoi. Et les gens sont capables de s'intéresser à autre chose qu'à leur petite vie quotidienne, même si elle est pénible, comme en ce moment.
Anne Barrier, vous qui êtes journaliste reporter d'images, ce que disait Patricia aussi à l'instant sur le fait qu'il y a des images qu'on peut plus montrer aujourd'hui. D'ailleurs, dans le livre, Patricia, vous dites qu'il faudrait aujourd'hui que pouvoir bouleverser, réveiller, faire enfin voir ce qui se passe réellement. Est-ce que vous, quand vous filmez à ce moment-là, vous sentez ça aussi, le fait de vous...
Auto-censurer
face à ce que vous voyez?
Non, quand je filme, je ne m'auto-censure pas. Jamais. Je pense qu'il faut filmer l'histoire dans sa totalité et après, avec le recul, on peut faire le tri au montage. Bien évidemment qu'il y a des images absolument atroces qui ne sont pas montrables, mais il faut quand même raconter les choses. Et je pense vraiment que le tri se fait au montage et non pas au tournage. Et moi, je trouve que l'image a quand même un poids, une force. Pour moi, c'est un langage qui est universel. C'est une langue internationale que tout le monde peut comprendre. Qu'on soit instruit ou pas, qu'on parle français ou pas, l'image, elle parle à tout le monde.
D'ailleurs, Anne, elle est formidable, elle ne s'arrête jamais de tourner. Même dans une voiture, quand la machette arrête devant son nez, elle tourne.
Quelles sont les images qui vous ont été refusées, par exemple, dans des reportages?
Moi, j'avoue, sur le Yémen Paris Match, ils ont accepté de publier ce que moi j'appelle un peu les images coup de poing. C'est des images qui dérangent, mais parfois il y a besoin d'images qui choquent un peu parce que comme ça permet de rentrer dans le conflit. Et parfois, oui, on peut pas se contenter d'images toutes douces et toutes jolies. Il en faut certaines. Il en faut pas trop non plus. Il faut doser. Moi, ils m'ont pas censuré là-dessus du tout.
Mais quand on parle de morts et de cadavres, pourquoi ne pas les montrer? On n'est pas obligé de faire des gros plans. On peut faire des plans larges, et ça, c'est notre boulot, bien évidemment, de construire l'image pour qu'elle soit acceptable.
Oui, mais, le cadre.
Mais quand on parle de quelque chose, il faut bien le montrer.
C'est là où il y a déjà.
Patricia Lémonière.
C'est là où déjà, par rapport à d'autres pays ou par rapport à avant. C'est déjà là où on sait ce qui est, on sait spontanément au fond de nous ce qui peut être acceptable. Moi, je me suis trouvée dans situation avec un caméraman qui a posé sa caméra et qui a dit « je suis pas là pour filmer, je suis pas un vautour, je filme pas, c'est trop violent ». Donc tout le monde n'est pas comme toi, Anne, tout le monde ne filme pas tout. Et puis je crois qu'effectivement...
C'est une mercenaire, mercenaire de l'image, on l'avait compris.
On va penser que tu es une caméra surveillante.
Vous venez de dire exactement votre titre.
Pas du tout.
J'ai bien compris.
Je l'ai vu dans la nuit aussi foncer sur des mobilettes en Syrie avec sa caméra, je peux vous dire qu'elle passe partout. C'est vrai qu'elle filme tout. Mais je crois qu'on a inconsciemment en nous cette nouvelle pudeur malgré tout. Je sais que moi aussi, on était au Yémen récemment. Il y a des images. Et Dieu sait si déjà le caméraman avait fait ce choix de cadrer un peu large, de cadrer serré. Mais il y a des choses qui sont très violentes ou un blessé. Donc on ne va pas le montrer. Et on en a retiré quelques-unes quand même.
Et en même temps... Quelquefois, il est nécessaire de montrer des cadavres. Par exemple, les djihadistes, tués lors de la bataille de Mossoul, vraiment, on les montrait, nous. On voulait les montrer. C'était aussi une information.
Il faut aussi respecter. En fait, tout est dans le cadrage et le respect aussi de la dignité de la personne qu'on est en train de filmer ou dont on prend la photo, du blessé, par exemple. Enfin, voilà, est-ce qu'on aimerait. Si c'était quelqu'un de sa famille qui soit filmé ou pris en photo de telle façon. Après, ça, c'est chacun fait en fonction de sa sensibilité. Et c'est là où, quand on est aussi professionnel, on sait comment essayer de faire passer le message, montrer les choses, mais de manière le plus digne possible.
Oui, le but, c'est quand même que ça soit vu. Donc, si effectivement tout le monde switch et part sur une autre chaîne, on ne fait pas passer le message.
Le message va continuer. Dans quelques instants, on va se retrouver pour voir en quoi même la guerre a changé de nature des images.
Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A criola que goia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. We'll be right back. rabuda que manda não se quebrar. A crioula que fui a tia, mas te veja pra viajar.
De la Saudade, version angolaise, c'est signé Pongo dans le NRV.
Le nouveau rendez-vous.
Dorothée Oliréke, l'une des envoyées spéciales de France Télévisions dans la bande de Gaza.
Toute la journée a été extrêmement tendue. Il y a eu beaucoup de tirs de snipers à proximité de la zone où nous nous trouvons en ce moment.
Sur France Inter.
En Centrafrique, à Bangui, la capitale, une tension que nous font vivre Liseron Boudoul, Anne Barrier.
Ce matin, les habitants armés de machettes nous ont tout à coup menacés et se sont déchaînés sur notre voiture, reprochant à l'armée française de ne pas les protéger.
Elles risquent leur vie pour raconter la guerre à la télévision ou pour ramener des images des territoires en guerre. Elles témoignent ce soir dans le NRV La Suite. Patricia Lémonière, Anne Barrier, Liseron Boudoul et Véronique de Vigry. On le sait, en 30 ans, la guerre a changé de nature. Les guerres ont changé de nature. Mais ça veut dire quoi véritablement sur le terrain? Quelles sont les guerres les plus difficiles à travailler aujourd'hui? Véronique de Vigry.
C'est à part celle de Mossoul où les combats étaient très près et comme c'était à l'intérieur d'une ville, c'est vrai que c'était un peu, j'imagine, une guerre un peu à l'ancienne. Maintenant, c'est juste que c'est beaucoup des guerres où les ennemis sont très éloignés, donc c'est beaucoup de la tranchée, des lignes de front où il y a finalement peu d'action, sauf pour Mossoul, je crois.
Ah non, il y en a eu en Syrie. Quand tu fais la bataille d'Alep, t'es avec un.
Ouais, moi j'étais pas, j'étais enceinte.
Oui,
alors.
Non, moi je pense que la guerre en Syrie, la guerre en Libye et même la bataille de Raqqa et la bataille de Mossoul sont des guerres où ce qui les rend particulières, c'est que on n'a pas de repères dans ces guerres-là. Il n'y a pas un camp contre un l'autre, on peut pas passer d'un camp à l'autre. On est obligé de trouver des accompagnateurs qui peuvent quelquefois nous protéger. C'est pas si sûr, parce qu'on sait jamais comment ça peut tourner et comment se transforment aussi les rebelles. Et donc la particularité de ces zones-là, c'est que on est à la fois cible des régimes, des dictatures. Et on peut aussi être la cible, notamment pour les kidnappings de certains groupes qui vont après nous revendre. Et on se retrouve dans une geôle de Daesh avec une combinaison orange et le couteau sous la gorge. Voilà ce qui a changé.
Effectivement, Liseron a raison. La guerre est toujours la même. Il y a toujours eu des rebelles. Il y a toujours eu deux types de guerres, une guerre asymétrique et une guerre conventionnelle. Ça, ces types de guerres sont toujours les mêmes. Ce qui change, c'est deux choses. C'est qu'aujourd'hui, les journalistes comme les humanitaires sont devenus des enjeux de pouvoir ou des prises de guerre. Et donc, on est devenu finalement, effectivement, comme le dit Liseron, des potentiels rapporteurs de rançon, où on est aussi des véhicules de la communication des belligérants. Parce qu'on est dans une société de communication. Et cette communication n'existait pas de la même façon avant. Avant, on voyait l'armée française, effectivement, on l'appelait la Grande Muette. Maintenant, la Grande Muette, elle communique, elle essaye de communiquer, en tout cas. Et les groupes rebelles, c'est pareil. Donc maintenant, il y a des attachés de presse au fin fond de la jungle, américains ou anglais, que vous imaginez même pas, où ils sont en liaison satellite avec, pour orienter la communication. Tous ces gens-là sont très organisés. Et donc, nous sommes devenus des enjeux pour transmettre la communication. On veut, en quelque sorte, aujourd'hui, nous empêcher de rapporter de l'information. On nous prend pour des communicants. Nous ne sommes pas des communicants.
C'est Marine Jacquemin dans le livre qui dit qu'effectivement, ce que vous dites, hein, que vous êtes des enjeux et que la carte de presse n'a plus sa valeur passée. Ça voulait dire que quand on était sur le territoire avant, avoir une carte de presse, c'était important.
Mais oui, mais journalistes,
ça ne sert plus à rien. Plus d'ailleurs, on ne nous l'a demandé jamais.
J'ai toujours entendu dire que les journalistes, mes collègues, grands reporters, fut un temps sur la voiture, écrivaient au gaffeur sur le capot TV. Pour que les hélicoptères qui envoyaient des obus voient « Ah non, ce sont des journalistes, on ne touche pas ». Aujourd'hui, moi je n'ai pas connu cette époque, moi j'ai toujours enlevé le logo presse de mon gilet pare-balles, surtout, parce que je ne veux pas qu'on me voie tout de suite comme journaliste.
Ça dépend des contextes.
Ils ont
par exemple, à Gaza, quand tu es sous le feu, sous les bombardements de l'armée israélienne, t'es vraiment, quand tu pars en voiture vers le sud, t'es obligé quand même de mettre un gros TV, le plus gros possible, sur le toit. Parce que tu peux être ciblé très vite, notamment si tu suis une ambulance qui peut être conduite par ce qu'ils appellent un rebelle ou un Palestinien qui n'est pas d'accord avec eux. Voilà, donc ça dépend vraiment des contextes. Je pense qu'il n'y a pas de règle si définitive. On s'adapte au terrain.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter ?
En tout cas, c'est plus une protection de faire partie de la presse.
Ça, c'est sûr. Et quelquefois, et c'est Bachar al-Assad qui dit qu'une caméra est plus dangereuse qu'une Kalachnikov.
Et il sait de quoi il parle. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter ?
Rien.
Rien.
Qui est-ce qui vient de parler ?
Les deux, là. Les deux,
là, Véronique de Viguerie et Yzeron Boudoul. Rien.
Moi, je ne me vois pas faire autre chose. Je crois que je ne sais pas faire autre chose. Et je n'ai pas du tout envie d'arrêter.
Moi non plus, mais je suis morte si je dois faire autre chose.
Là, moi, je continue, donc c'est la preuve.
Ouais.
Après autant d'années. Mais ce qui pourrait nous faire arrêter, c'est que le métier meurt. Et je pense qu'il y a un danger aujourd'hui sur notre métier.
Anne Barrier.
Moi, j'ai levé le pied, là.
Eh oui, c'est ça, c'est pour ça.
Voilà.
Je vous réserve pour la fin. Pour quelle raison vous avez levé le pied ?
J'ai levé
vous
le pied.
Vous qui étiez la mercenaire de la caméra.
Voilà.
Elle va le redevenir.
Peut-être, un jour, j'espère.
Pourquoi ?
J'ai levé le pied parce que j'ai mon deuxième petit garçon qui est né avec une pathologie assez complexe, une malformation cardiaque et des voies respiratoires. Et donc, qui est très malade, a subi plusieurs chirurgies. Et qui a besoin de sa maman au quotidien, à son chevet. Mais dans ce malheur, si on peut appeler ça comme ça, j'ai eu la grande chance que tous mes collègues de TF1 me fassent un don de leur congé. Et j'ai eu énormément de jours de congé et je les remercierai jamais assez. J'en ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle tellement je suis émue de cet élan de générosité qui me permet, tout en gardant mon salaire, d'être au quotidien auprès de mon fils.
La dernière question, elle sera pour vous, Yzeron Boudoul. Comment y va l'évêque depuis Envelé ? Parce qu'il paraît que vous allez entre...
Il est décédé depuis.
Ah, il est décédé. Ah,
bah, mais un autre l'a remplacé. Je n'ai pas ce contact chaleureux que j'avais avec Monseigneur Brincard.
Parce que ce que vous alliez faire entre chaque mission, vous alliez...
Oui, parce que moi, je suis d'origine auvergnate. Enfin, mi-polonaise, mi-auvergnate. On n'est jamais parfait. Et donc, quand je rentre de mission, moi, mon grand truc, c'est je vais me promener dans les belles forêts, dans la belle nature de la Haute-Loire.
Et raconter vos expériences à feu l'évêque.
Et il se trouve que ce feu évêque du Puy-en-Velay avait voyagé beaucoup dans sa jeunesse. Il aimait beaucoup que je lui raconte mes expériences de voyage et il me donnait aussi par la même occasion des petits conseils. Et comme moi je suis croyante, je me sers toujours de ce qu'il m'a dit.
Eh bien, il a dû en entendre, l'évêque de Puy-en-Velay. Merci à vous toutes. Merci Anne Barrier, Yzeron Boudoul, Patricia Lémonière. Elles risquent leur vie. 5 femmes reporters de guerre témoignent. Ça vient de paraître chez Talendier. Et je signale que l'on peut vous retrouver, bien sûr, dans les journaux télévisés de TF1. Véronique de Viguerie, profession reporter, 2 baroudeuses en terrain miné, est toujours disponible aux éditions de La Martinière. Et on attend pour début mars, Véronique de Viguerie pour La Liberté de la Presse, une sélection de photos pour reporters en frontière. Merci. On se quitte tout de suite avec Françoise Hardy, une autre pionnière. Elle vient de fêter ses 75 ans, dont plus de 50 ans consacrés à la musique. Elle nous invite à une partie de cache-cache sur France Inter. Où l'on se voit sans compte.
réflexe d'automate et mauvaise foi. Même joue contre joue, ça va de soi. À la masse, fatigué surtout de ces jeux-là.
À cache-cache, Françoise Hardy joue et gagne avec son dernier album Personne d'autre, disque d'or et disque France Inter. Et bien voilà, le NRV c'est fini pour aujourd'hui. Le NRV cette année c'est chaque jour, hein, dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis bien sûr, 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. La réalisation était signée Marion Lelay et Juliette Medevielle. Préparation Virginie Rouzic, Benoît Lagane, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Xavier Crouet à la technique ce soir. Sacha Tropp, Fabrice Desmas, Nasser Moussaoui et Johanna Gabric. Demain on se retrouve et on sera là avec ça.
Jésus revient, Jésus revient.
Dieu merci, Harry Habitant et Philippe de Chauvron seront nos invités pour Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Et dans le NRV la suite, France-Allemagne, le traité, c'est toi et moi contre le monde entier. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Allez, à demain.